Certains, j'avais à cœur de partager avec vous un message sur le prophète Osée. Et on a chanté l'amour passionné de Jésus tout à l'heure. Et c'est le titre que j'ai donné à ce message, que l'amour de Dieu est renversant et passionné. On va regarder quelques passages dans le livre d'Osée, on va se promener dans le livre d'Osée ce matin. Mais j'aimerais voir ce que Dieu veut nous enseigner au travers de ce livre. Et je crois qu'au travers des prophètes du passé, Dieu a des choses à nous dire pour nous les hommes au présent. Il y a encore des choses que Dieu veut nous communiquer. Alors, le livre d'Osée ouvre dans les petits prophètes. Alors, petits prophètes, ça ne veut pas dire qu'ils ont eu un petit appel ou un plus petit ministère. C'est juste que les ouvrages des petits prophètes sont plus petits que des livres comme Ésaïe ou Jérémie qui prennent beaucoup de place et beaucoup de volume dans nos livres. Donc, voilà, un petit peu, c'est pour situer le contexte. Et voilà, on va parler du prophète Osée. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Ouais, parce qu'on parle souvent de prophète dans le milieu, mais c'est quoi un prophète? Donc, ça vient du terme grec prophétesse, c'est celui qui parle de la part de Dieu. En fait, le prophète, c'est un porte-parole de Dieu. C'est celui qui parle pour Dieu, qui parle de la part de Dieu. Et bien souvent, dans le texte, quand on parle de prophète, on associe ça à prédiction pour le futur. Ouais. Souvent, on entend ça. Mais en fait, je vais voir que le prophète, c'est pas tant quelqu'un qui prédit l'avenir qu'un prédicateur pour le présent.
C'est vrai qu'il y a un aspect prédiction, mais il y a une grande part de prédication. Le rôle du prophète, c'est de ramener les gens à Dieu. C'est de leur permettre de connecter et d'avoir confiance en Dieu pour le quotidien. C'est lui qui les rappelle quand ils s'éloignent de Dieu. Le pasteur André Boulagnon, qui est un pasteur retraité des Assemblées de Dieu, mais qui était dans la région parisienne, disait la chose suivante. Le prophète ne cherche pas tant d'éclairer loin devant nous la route de l'avenir, mais bien plutôt notre chemin à nos pieds. C'est le rôle du prophète, un prédicateur pour le temps présent. Et on va voir ce matin que Osée, non seulement a été un témoignage, elle a été une Bible ouverte pour ses contemporains. Ce message-là, c'est celui d'un Dieu qui nous aime d'un amour fou, d'un amour extravagant, et Eric l'a dit dans sa prière tout à l'heure. Un amour fou, un amour qui nous dépasse, un amour qui nous renverse. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Premier point que je veux soulever avec vous, c'est que l'amour de Dieu est fou et immérité. Et on commence la lecture au chapitre 1, les versets 1 à 3. Parole de l'Éternel adressée à Osée, fils de Béhéri, durant les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias sur Juda, et durant celui de Jéréoboam, fils de Joas sur Israël. Début des paroles de l'Éternel à Osée. L'Éternel dit à Osée, « Va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. » En effet, le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla prendre Gomer, fille de Diblaïm. Notre histoire commence avec Dieu qui parle à son prophète pour lui dire « Va épouser une prostituée ». Est-ce qu'on peut se mettre 5 minutes dans la place d'Osée ce matin, à démarrer votre journée. Et puis là, Dieu vous demande de faire un truc qui est condamné par l'Écriture. Dieu vous demande de faire quelque chose complètement à l'inverse de vos valeurs, de ce que vous croyez, de ce qui vous habite. Ouah, qu'est-ce qui lui arrive à Dieu ce matin-là? Pourquoi il me demande un truc comme ça? Mettez-vous juste à la place d'Osée. 5 minutes. Quelque chose d'invraisemblable. C'est vraiment étrange ce passage, ce livre d'Osée est vraiment étrange. Pourquoi Dieu demanderait à un homme consacré d'aller épouser une prostituée? Alors les théologiens, ils ont cherché toutes sortes de technique pour esquiver ce passage. Alors on a dit que c'était un mime c'était pas vrai, il n'avait pas vraiment épousé cette femme, et c'était pour décrire la situation d'Israël par rapport à Dieu. D'autres vont dire, si, il a bien épousé cette femme, mais tout allait bien au début du mariage. C'est ensuite qu'elle est tombée dans l'adultère et qu'elle s'est détournée. Et puis d'autres vont dire, Osée a bien épousé une prostituée. J'aime ce que le théologien William MacDonald va écrire. Et il le dit dans son commentaire, alors du coup je ne sais pas si on a réussi à envoyer de côté un petit peu, normalement en glissant. Ouais, on y était là, ça va revenir. Ça sera un peu petit, désolé, parce que mon 16/9 ne rentre pas dans votre 4 tiers. Là il y était tout à l'heure, il faut juste le laisser en petit écran normalement, et puis ça devrait passer. Ah ou comme ça aussi. Attendez, ça arrive. Donc je vous lis la citation, elle arrivera au fur et à mesure. On y est presque, ouais, non. C'est pas grave. Quand ça vient, ça vient. Si ça vient pas, c'est pas grave. Et il dit, notre répugnance face à une union avec une femme immorale illustre bien la grâce de Dieu qui supporte les péchés de son peuple alors qu'il est plus saint qu'aucun prophète ou prédicateur. Le fait que Dieu demande à Osée d'épouser Gomer, ça illustre sa grâce. Mes amis, on ne méritait rien. On est pourri par le péché. On est pourri par notre orgueil, pourri par notre égoïsme. Et pourtant, Dieu nous aime. Et pourtant, Dieu veut nous attirer à lui. Et pourtant, Dieu veut être en relation avec nous. Vous savez, quand on regarde juste la généalogie de Jésus dans la Bible, c'est incroyable. La généalogie de Jésus regorge de personnes qui étaient disqualifiées. Disqualifiées pour être dans la lignée du Messie. On va juste prendre quelques noms comme ça. Tamar. Tamar qui a accouché de Pérez. Pas Éric Pérez, mais Pérez. Elle a accouché de Pérez en se faisant passer pour une prostituée auprès de son beau-père Judas. Ensuite, on a encore d'autres personnes. On a Rahab, encore une prostituée. La prostituée qui a caché les espions hébreux lors de la conquête de Canaan. Et elle a eu pour descendant Boaz, par Salma. Ensuite, on a Ruth. Ruth, une Moabite, un peuple qui a reçu une disqualification. Les Moabites, vous n'en aurez pas au milieu de vous, c'est ce que disait le Deutéronome. Elle était exclue du plan de Dieu à cause de sa nationalité. Pourtant, sa foi lui a fait éviter le jugement national sur son peuple. Elle a été intégrée dans le plan de Dieu et elle est l'ancêtre du roi David. Ça, c'est que quelques exemples dans la généalogie de Jésus de personnes qui ont bénéficié de cette grâce infinie de Dieu, cette grâce folle de Dieu, cette grâce de Dieu qui fait de nous, qui nous transforme d'esclaves en fils et en filles. L'amour de Dieu fou, il veut faire de nous ses enfants. L'amour de Dieu, il est si grand, il est si puissant pour nous, sa création, qu'il n'a pas hésité à donner sa propre vie à la croix pour nous sauver et pour pouvoir nous transformer. En fait, Osée, c'est le prophète qui révèle ce qu'il y a sur le cœur, dans les entrailles de Dieu pour chacun d'entre nous. Osée n'a pas eu peur d'affronter la honte des regards de ses contemporains. Épouser une prostituée, imaginez-vous. Tout le monde sait que la prostituée, elle l'est. Tout le monde sait. Osée n'a pas honte de se tenir à ses côtés, au milieu du peuple, dire « c'est mon épouse ». Et de la même manière, Jésus n'a pas hésité à prendre sur lui notre honte, notre crasse, notre orgueil, nos mensonges, nos actes mauvais, toutes ces choses-là. Paul dira même dans 2 Corinthiens 5:21 que Jésus a littéralement été fait péché pour nous. Il a matérialisé le péché par amour pour chacun d'entre nous. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, mais Dieu n'appelle pas des qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Il n'appelle pas des champions, il n'y a pas de champion ici. Le seul champion qu'on a, c'est Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. Dieu n'appelle pas des qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. C'est lui qui est à l'œuvre en nous pour faire de nous ses enfants. D'ailleurs, le mot même, le nom d'Osée, c'est une transcription grecque du mot « Oshéa ». Oshéa, qui est la forme abrégée de « Yahweh sauve », « l'Éternel sauve ». J'aimerais vous dire ce matin que son amour, que sa grâce ne s'arrête pas seulement à l'appel qu'on a reçu lorsqu'on s'est converti. Vous savez, souvent, nous évangéliques, on est bons pour voir la grâce de Dieu au moment de la conversion, mais ensuite on veut marcher en chrétien par nos propres forces. Et on oublie que sans la grâce, nous ne pouvons rien faire. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, c'est son œuvre en nous qui nous transforme et qui nous fait grandir. La grâce, elle nous prend au début du parcours, elle nous prend en cours de parcours, et c'est aussi la grâce qui nous amènera au ciel. La grâce de Dieu. Pas nos efforts, pas nos mérites, pas toutes les médailles qu'on pourra afficher de tout ce qu'on a fait dans l'Église. Rien de tout ça n'a de la valeur. Juste le sang précieux de Jésus versé pour nous. Et c'est de cette grâce que nous devons dépendre. Et c'est au cours de nos abandons qu'on va avancer maintenant. Le deuxième point que je veux soulever avec vous, c'est que l'amour de Dieu se manifeste même lorsque nous le délaissons en cours de route, lorsque nous l'abandonnons en cours de route. On va dans Osée chapitre 3, verset 1. Et là, Dieu parle à Osée, il dit « L'Éternel m'a dit, va encore aimer une femme, aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites, alors qu'eux, ils se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux de raisin. » Malgré le fait que cette femme, elle a été épousée par Osée, on voit qu'elle veut retourner à son ancienne vie. Elle va délaisser son mari, elle va le tromper, elle va commettre l'adultère. Mais pourtant, Dieu continue d'appeler son prophète à aimer son épouse, à chérir son épouse. Imaginez-vous, il est invité par Dieu à aimer une femme qui se livre à d'autres et qui va continuer de le faire. Je ne sais pas, on sait tous ce que les ravages de l'adultère peuvent commettre dans des vies. Et là, Dieu continue de lui dire « Aime ta femme, entoure ta femme, sois là pour elle. » On apprend même dans le chapitre 1er d'Osée que Gomère et Osée ont eu 3 enfants. Et un des enfants s'appelle Lo-Ami, qui signifie « pas mon peuple ». Et beaucoup de théologiens pensent que cet enfant-là n'était pas le fils d'Osée. C'était le fruit d'un des adultères. Et il le prend pour son fils. On voit dans ce passage que Dieu va comparer l'adultère de Gomère à l'attitude de tout son peuple qui a sombré dans l'idolâtrie. On sait qu'à cette époque-là, Israël vivait dans une prospérité matérielle, mais dans une pauvreté spirituelle. C'est pour ça, mes amis, que c'est pas parce qu'on est béni matériellement qu'on est en train de faire l'œuvre de Dieu. Vous savez, il y a un faux évangile qui nous enseigne que quand tout va bien, c'est que t'es bien aux yeux de Dieu. C'est complètement faux. On peut être dans la prospérité matérielle, mais être complètement sec à l'intérieur. Et c'est exactement ce que Israël vivait à cette période-là, avant la déportation. En fait, ils ne cherchaient plus à vivre pour Dieu. Ils étaient tombés dans une spiritualité de façade. Alors, ils rendaient bien un culte à Dieu, mais à côté de ça, ils rendaient hommage à Baal. On sait que Baal était une divinité cananéenne qui était censée assurer la fertilité et la fécondité des troupeaux. En fait, pour Dieu, le fait que le peuple courtise le dieu Baal, c'était comme si le peuple commettait un adultère, comme s'il le trompait. Là où l'Éternel voulait une relation exclusive avec son peuple, Israël, à ce moment-là, s'intéressait à tout dieu qui lui fournirait les choses matérielles qu'il sollicite. D'ailleurs, le prénom Gomère veut dire « consommation ». Elle était dans la consommation. Qu'est-ce que les choses peuvent m'apporter ? Et finalement, le peuple n'a même pas reconnu que c'était la main de Dieu qui les bénissait et qui faisait d'eux des êtres prospères. Osée 2:10 nous dit « Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le moût et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. » Alors, bien plus, ils ont même utilisé les bénédictions de Dieu pour se bâtir et rendre un culte à un faux Dieu. Alors vous allez me dire « Ok, t'es bien gentil ce matin avec tous tes faux dieux, etc. » Mais l'idolâtrie, là, ça n'existe plus. On n'est pas dans l'idolâtrie. Aujourd'hui, on vit plus tout ça. Laissez-moi vous dire que si la forme de l'idolâtrie, elle a changé, le fond, il est toujours là. Je vais vous donner une citation de Timothy Keller qui va arriver. Tu peux descendre un petit peu. Ouais, celle-là. Timothy Keller, qui est un théologien qui est décédé il n'y a pas longtemps, mais qui décrit ce que c'est qu'une idole. Qu'est-ce qu'une idole ? C'est tout ce qui est plus important que Dieu dans votre vie. C'est tout ce qui captive votre cœur et votre imagination. Et tout ce qui remplace les biens que Dieu seul peut donner. Un faux Dieu est tout ce qui devient tellement central et essentiel à votre cœur que le perdre vous ôterait tout désir de vivre. Une idole contrôle votre cœur d'une façon telle que vous pouvez lui consacrer la plus grande part de votre passion et votre énergie, de vos ressources financières et émotionnelles, sans y réfléchir à deux fois. Si vous commencez à chercher votre joie, votre identité ou le sens de votre vie dans quelque chose d'autre que Dieu, alors cette chose est une idole. On va prendre l'exemple de deux idoles dans le monde grec qui étaient connues, Aphrodite et Artémis. Qui connaît Aphrodite ? Ouais, elle sert à quoi Aphrodite ? Allez-y, vous savez ? Quelqu'un sait qu'est-ce qu'apportait Aphrodite ? Déesse de l'amour, de la séduction, déesse de plaire, etc. Aujourd'hui, plus personne n'offre d'offrande à Aphrodite. Pourtant, on sait que, notamment chez les jeunes femmes, il y a plein de femmes qui sont poussées aux troubles alimentaires à cause de l'obsession de l'image. On n'offre plus d'encens à Aphrodite. Mais pour cette culture de l'image, afin de pouvoir être aimé, afin de pouvoir être accepté, de recevoir quelque chose, ils vont être poussés dans des troubles alimentaires et on sait tout ce que ça peut entraîner comme type de maladie. à cause de ce souci obsessionnel de l'image. Aujourd'hui, on brûle plus d'encens devant Artémis. Pourtant, pour certains, l'argent et la carrière sont la chose la plus importante. Et des gens sont prêts à sacrifier leur vie de famille, leur relation avec leur famille, pour pouvoir prospérer et grandir. Alors, on n'offre plus d'enfants physiquement à un dieu, mais on sacrifie notre famille sur l'autel de la réussite. La forme a changé, mais l'idolâtrie est toujours là. Le fond est toujours là. Tout ce qui va prendre plus de place que Jésus dans votre cœur est une idole. Est-ce que vous savez qu'un service pour Dieu dans l'Église peut être une idole? Un service pour Dieu peut être une idole. Des fois, on a tendance à confondre la passion pour Dieu et la passion pour le service de Dieu. J'ai envie de vous poser la question ce matin. Qu'est-ce qui se passe si demain, Dieu vous enlève tout votre service? Votre prédication, votre louange, peu importe, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes là en train de jalouser peut-être celui qui sera là à votre place, en disant c'est pas juste? Ou est-ce qu'on sera toujours là les mains levées pour dire Seigneur, je te remercie, parce que j'étais dans la boue de mon péché, mais t'es venu donner ta vie parce que j'avais de la valeur à tes yeux, t'es venu donner ta vie pour racheter la mienne, pour que je puisse être ton ami, pour que je puisse être réconcilié avec toi. Le service pour Dieu peut être une idole. Une autre idole dans l'Église, ça s'appelle le légalisme. Qui connaît le légalisme? Le légalisme va soutenir que ma relation avec Dieu, elle va dépendre de ma capacité à faire du bien et à obéir à des règles chrétiennes. C'est de croire que je peux m'approcher de Dieu ce matin parce que j'ai lu ma Bible à 8h05. C'est de croire que je peux m'approcher de Dieu parce que j'ai été gentil cette semaine, parce que j'ai été bon au travail. Et du coup, puisque j'ai été bon, Dieu me doit quelque chose, il doit m'écouter et il doit me bénir. Le problème de ce comportement-là, c'est que quand on va réussir des choses, on va dire, mais finalement, c'est grâce à moi, c'est grâce à mes réussites que je peux m'approcher de Dieu. Donc Dieu n'est plus au centre, c'est moi qui suis au centre. Et puis bien souvent, parce qu'on est faillible, et ça on le sait, quand on va chuter, on ne va pas oser s'approcher de Dieu. Ah non, dimanche, là, je ne vais pas à l'église, là. Que là, cette semaine, je n'ai pas été à la hauteur. Vous savez, ça, c'est une stratégie du diable. Le diable est un tentateur qui se transforme en accusateur. C'est-à-dire qu'il va vous tenter, vous proposer des options en dehors de Dieu, et une fois que vous allez les prendre, il va dire, mais t'as pas honte? T'as pas honte avec ce que t'as vécu cette semaine de venir dans la maison de Dieu? Pourquoi il fait ça? Sa stratégie est toujours vous éloigner de Dieu. Il sait que au moment où vous avez succombé, c'est le moment où vous avez le plus du besoin de Dieu et de sa grâce. Vous savez, la parabole du fils prodigue, le père qui est déjà en train d'attendre son fils avant même que son fils revienne. Ça, c'est le cœur du père pour chacun d'entre nous. Il est là et il nous attend. Et Satan sait très bien qu'à chaque fois qu'on va revenir à Dieu, le Père nous prend dans ses bras et nous communique sa grâce. C'est pour ça qu'il va nous tenter, puis nous accuser, pour nous empêcher d'aller connecter avec le ciel, pour nous empêcher d'aller connecter avec Jésus. C'est sa stratégie. Il y a cette idolâtrie du légalisme. Parfois on dit, mais non, moi je suis pas légaliste. Qu'est-ce qui se passe si demain, vous allez chez le médecin, et que là il vous annonce que le diagnostic est une grave maladie? Le réflexe qu'on va avoir, c'est « Seigneur, pourquoi ?» Des fois, « Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ça fait des années que je te sers. Pourquoi tu permets ça dans ma vie ?» Et ça, c'était un brin de légalisme. C'est que quelque part, je suis en train d'essayer d'afficher à Dieu un CV pour lui dire « Je ne dois pas être malade parce que j'ai fait tout ça pour toi. Parce que je suis engagé, même si je galère, etc. Mais j'ai fait tout ça pour toi. Pourquoi je suis malade ? Pourquoi tu permets ça dans ma vie ?» Le légalisme, il est toujours caché quelque part, en chacun d'entre nous, même pour un prédicateur qui parle de la grâce. C'est un piège. C'est un piège. Et en plus, on est dans une société où on est récompensé par les points. À l'école, on nous donne des points pour des choses qu'on a fait. Au travail, on nous donne une prime parce qu'on a bossé. Si on peut bosser un peu plus que l'autre d'à côté, on récupère sa prime. On est tout le temps là-dedans. Mais l'Évangile vient nous annoncer autre chose. Cette grâce de Dieu qu'on ne mérite pas. Dans Osée 12,9, on lit, et ça c'est le peuple qui dit, « En vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune faute, rien qui soit un péché. » Ça, c'était la pensée du peuple à ce moment-là. C'est grâce à nous-mêmes qu'on a réussi, c'est grâce à nous-mêmes qu'on a performé. Vous savez, vous connaissez cette histoire dans Luc, d'un religieux qui se présente et qui dit, « Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme tous les autres. » Surtout comme celui-là, là. Lui, il est pourri, lui. Vous connaissez cette histoire, hein ? Et il est là devant Dieu en train d'étaler toutes ses pseudo-réussites. Et puis à côté de ça, il y a ce collecteur d'impôts qui se frappait la poitrine. Et il disait, « Seigneur, je ne suis même pas digne de m'approcher de toi. Je ne suis même pas digne parce que ma vie, elle est pourrie. » Qu'est-ce que va nous enseigner Jésus ? Qui c'est qui va repartir gracié dans cette histoire ? C'est celui qui n'osait même pas regarder au ciel, alors que les mains du ciel, ils étaient là pour l'accueillir. Il n'osait même pas regarder. C'est lui qui est reparti justifié, pas le religieux. Mes amis, nous ne méritons rien. Dieu ne nous doit strictement rien. Il ne nous doit pas la santé, il ne nous doit pas la prospérité, il ne nous doit rien. On ne peut pas venir à Dieu en essayant de revendiquer quelque chose sur la base de nos mérites. La seule base sur laquelle nous pouvons nous approcher de Dieu ce matin, c'est que notre Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu de grâce. Un Dieu qui veut prendre soin de nous. Un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui va permettre parfois des choses qu'on ne comprend pas, mais on sait qu'il le permet toujours pour notre bien. Même si on n'a pas la réponse du pourquoi, toujours. Parfois on aura la réponse. Peut-être qu'il y a des réponses qu'on n'aura que quand on sera dans sa présence. Mais nous croyons que notre Dieu est bon, que notre Dieu est juste, que notre Dieu est amour. Et c'est sur cette base-là, et seule cette base-là, qu'on peut s'approcher du ciel ce matin. C'est pas mes belles paroles et toutes les choses que je peux mettre en avant qui font de moi un disciple de Jésus. Ce qui fait de moi un disciple de Jésus, c'est sa grâce qui est venue me chercher alors que j'étais loin de lui. C'est sa grâce qui me soutient lorsque parfois je me laisse encore embrouiller par les doutes et par les mensonges de l'ennemi. C'est la grâce de Dieu qui pardonne et qui transforme. Une morale chrétienne ne transforme aucune vie. Désolé, je vais vous choquer un peu ce matin. Et là, je vais parler aux parents pendant juste quelques instants. Vous savez, des fois, pour nos enfants, on veut absolument qu'ils se gardent purs pour le mariage. C'est une bonne chose. C'est le plan de Dieu. Mais des parents chrétiens vont mettre l'emphase que sur ça pour leurs enfants, qui n'ont pas expérimenté la grâce de Jésus. Mais la morale ne fait pas de nous un chrétien. Vous savez, un vierge sans Jésus, c'est un vierge en enfer. Un vierge sans Jésus, c'est un vierge en enfer. La seule chose qui peut transformer une vie, c'est la grâce de Dieu. On ne peut pas imposer une morale chrétienne à quelqu'un qui n'a pas expérimenté l'amour, la grâce de Jésus, quelqu'un qui n'est pas venu à la croix. Ce n'est pas possible. Ça ne veut pas dire que nous, en tant que parents, on ne doit pas éduquer nos enfants. Mais attention, des fois, à des jougs de morale qu'on veut placer, alors qu'en fait, il faut juste leur permettre qu'ils goûtent au travers de nous notre relation avec Jésus qui transforme. Parce que c'est ça qui parle, c'est ça qui transforme, c'est ça qui change des vies. C'est de se dire, il y a quelque chose de différent chez mon père, il y a quelque chose de différent chez ma mère. Et dans leur amour, dans leur union, il y a quelque chose que moi aussi je veux vivre. Parce que chaque être humain aspire à vivre l'amour, un amour vrai, un amour fidèle. Et c'est ça dont on doit être témoin, cette expérience de vie qui vient interpeller. Alors c'est sûr qu'à 16-17 ans, des fois, ils ne se laissent pas trop interpeller. Mais il y aura des saisons, mes amis. Il y aura des saisons. Vous, pendant ce temps-là, priez pour vos enfants. Demandez à Dieu de veiller sur eux, parce qu'il n'y a que sa grâce qui peut les tenir. Et même dans les choix les pires, aimez-les jusqu'au bout. Aimez-les jusqu'au bout. Ça, c'est notre job, d'aimer, d'entourer et de prier. Et Dieu est capable de nous chercher. Vous savez, à l'âge de 16-17 ans, j'étais devenu un néo-nazi. J'étais à l'époque, pour les Ardennais, vous savez que j'étais. Il y avait le club de Sedan, qui était un club de football assez haut placé. J'étais dans les supporters ultra, je vivais ma vie pour ça. Et puis pour exister dans le regard des autres, pour être aimé, ben, j'ai commencé à vivre des choses que les autres vivaient. Et je l'ai fait pas parce que ça me passionnait au départ, c'est juste pour pouvoir exister dans le regard des autres. Mais quand Jésus est venu me rencontrer, je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de m'inventer une vie pour exister dans le regard des autres parce que j'existais dans le regard de Jésus. Et ça, ça change tout. Ça change tout. Donc nous, notre job, et je bénis Dieu pour ma grande sœur et pour ma mère qui ont prié dans ces années-là. Ils ont prié pour qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Et la grâce de Jésus est venue me chercher. La grâce de Jésus est venue me chercher. Donc ne désespérez pas si vous voyez vos enfants parfois... Désolé, je suis plus dans mon message. Hein. Si vous voyez vos enfants faire des choix peut-être qui vous dérange à ce moment-là. Priez pour eux, aimez-les, entourez-les. Et laissez, ayez confiance dans ce Dieu qui a promis de prendre soin de votre famille. Amen. Je reviens dans mon message, je ne sais plus où j'en suis, mais ce n'est pas grave. On ne mérite rien, etc. La seule chose qu'on peut revendiquer, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu seul qui justifie. Et vous connaissez Moody. Moody a dit la chose suivante. Dieu accorde sa grâce dès que l'homme réalise qu'il n'en est pas digne. Dieu accorde sa grâce dès que l'homme réalise qu'il n'en est pas digne. À ce moment-là, les Israélites ont choisi de placer leur confiance en Baal, en eux-mêmes plutôt qu'en l'Éternel. Et l'Éternel va annoncer par la bouche d'Osée qu'il y a un temps de désert et de difficulté qui va les frapper. Et ça, c'est mon troisième point ce matin. Quand le désert est nécessaire. Verset 2 au chapitre 3, alors on va dire « Je l'ai racheté pour 15 pièces d'argent, 330 litres d'orge » et puis au verset 4 et 5, « En effet, les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans éphode et sans théraphime. » Tout ce qui faisait le culte. « Après cela, les Israélites reviendront, ils rechercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi et ils retourneront en tremblant vers l'Éternel et vers sa bienveillance dans l'avenir. » Les adultères successifs de Gomer et sa conduite vont complètement détruire sa vie et la conduire sur le marché des esclaves. C'est pour ça qu'on lit ce verset qui nous parle de 15 pièces d'argent. 15 pièces d'argent, c'était le prix d'un esclave. C'était le prix qui était fixé pour un esclave. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'à ce moment-là, Gomer, elle est sur le marché des esclaves et plus personne ne veut d'elle. Il n'y a plus personne qui veut d'elle. Elle a été abandonnée par ses amants. Toute la confiance qu'elle avait placée chez eux, c'est en train de s'écrouler. Puis là, il y a des temps difficiles qui viennent s'abattre. Derek Kidner, qui a écrit un commentaire sur le livre d'Osée, qui s'appelle « Osée, l'amour malgré tout », il dit « Gomer n'a plus de grande valeur pour qui que ce soit, excepté pour Osée. » Elle n'a plus de valeur. Dieu va comparer cette situation au fait que Israël va se retrouver déporté, sans roi, sans personne, pendant quelques temps. Il annonce une terrible épreuve qui arrive et c'est ce qui prendra place en 722 avant Jésus-Christ pour le royaume d'Israël et puis en 587 pour Juda dans l'histoire. Donc le royaume du nord et le royaume du sud. Mais c'est au travers de cette déportation qu'ils vont pouvoir se réveiller et prendre conscience de quelque chose. Osée 2:16-17 nous dit « C'est pourquoi je veux l'attirer et le conduire au désert et je parlerai à son cœur. » Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Dieu peut se servir de temps difficiles pour permettre au peuple de revenir à lui. Bien souvent, à cause de notre entêtement, Dieu permet qu'on arrive dans des temps d'épreuves terribles, qu'on arrive au bout de nos ressources, qu'on arrive au bout de nos forces. Dans où on a placé tous nos espoirs, afin qu'on réalise qu'on ne peut pas s'en sortir sans lui. On ne peut pas s'en sortir par nos propres forces. Vous savez, c'est quand nos sécurités, nos fausses sécurités tombent, c'est dans les moments de crise intense que nous laissons l'accès de notre cœur à Dieu. C'est dans le désert, c'est dans un lieu dépouillé, là où il n'y a rien, où il n'y a pas d'eau, que Dieu va pouvoir communiquer avec lui, sans obstacle. Il n'y a plus rien qui fait obstacle entre le peuple et Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu fait une promesse. Il nous parle de la vallée d'Achor. Vous savez ce que ça veut dire, la vallée d'Achor? C'est la vallée du malheur. Il lui dit, je vais lui donner la vallée du malheur comme une porte d'espérance, comme une porte pour changer. Au travers de cette vallée difficile, je vais lui donner une porte pour pouvoir changer, une porte pour pouvoir être transformé. Changer, alors oui, on peut être changé, mais comment? Dieu propose à Israël d'anéantir les fantômes de son passé, comme il propose d'anéantir le passé de tout pécheur qui se repent, on l'a entendu dans une prière tout à l'heure. Et c'est mon quatrième point, un appel à un retour à Dieu sincère. Je reprends cette expression, je l'ai acheté pour 15 pièces d'argent et 330 litres d'orge. Je lui ai dit, tu resteras longtemps à moi, sans te livrer à la prostitution, ni appartenir à aucun homme, et j'agirai de même envers toi. Comme on l'a lu tout à l'heure, Gomer, elle est là sur le marché des esclaves, il n'y a plus personne qui porte ses regards sur elle, elle est délaissée. Et c'est là qu'arrive celui qui a été abandonné, celui qui a été trompé, celui qui a été délaissé. il arrive et il paye le prix. Il paye le prix pour la racheter. Il paye le prix que plus personne ne veut payer. Et il l'invite à abandonner ses prostitutions et à revenir dans le lien du mariage. Quel amour renversant, quel amour extravagant. Quel amour qui dépasse notre entendement. Je ne sais pas vous, mais si un jour votre mari ou votre femme vient vous voir et vous dit « Chérie, ce mois-ci tu vas être content de moi, je t'ai été fidèle 99% du temps. » Est-ce que c'est un bon score ou c'est un mauvais score d'être fidèle à 99% du temps? C'est un mauvais score, hein? On n'accepterait pas ça. Là, Osée vient et il paye la somme. Il paye la somme pour la faire revenir. Parce qu'il l'aime, parce qu'il l'entoure. Ça, c'est l'amour de notre Dieu. Un amour extravagant, un amour fou, un amour qui dépasse nos raisonnements, notre entendement. Mais on voit aussi que c'est un amour qui... c'est un appel à un amour sans partage. Dieu ne partage pas. Il veut notre cœur, il veut notre vie. Dans Osée, on trouve un verset qui parle de relations que Dieu veut avoir avec nous, et on voit ça dans le verset 6 du chapitre 6. « En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. » Le mot « connaissance » dans la Bible, c'est un euphémisme pour parler de relations intimes, de relations sexuelles. Et l'image que Dieu donne, c'est qu'il veut une relation sans partage, une relation intime avec chacun d'entre nous. Les relations sexuelles sont réservées exclusivement pour un chrétien dans le cadre du mariage. Et Dieu veut une relation exclusive avec son peuple, ne laissant de place à aucun rival. Dieu ne veut pas de repentance superficielle qui vont être décorées par quelques sacrifices ou quelques bonnes actions qu'on pourrait faire. Mais il veut nos cœurs qui s'abandonnent, nos cœurs qui lui font entièrement confiance. S'abandonner à Dieu, c'est croire que ce qu'il veut pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur et que je peux lui confier les rênes de ma vie. Je peux lui confier le contrôle de ma vie, et ce, dans tous les domaines. Dans Osée 14, on va lire la chose suivante. Il dit « Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. » C'était toutes les fausses sécurités. « Nous ne monterons pas sur les chevaux et nous ne dirons plus à l'œuvre de nos mains notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. » Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça dépeint l'attitude aussi de celui qui vient, qui revient à Dieu. Celui qui s'humilie devant Dieu, qui lui demande pardon et qui le loue pour tout ce qu'il a accompli. L'expression qui est employée ici, qui dit « apportez avec vous des paroles », signifie une demande de pardon, une reconnaissance de faute sans tentative de justification. Parce que vous savez, on est bon pour ça. Oui, mais moi j'ai fait ça parce que... Par contre, quand quelqu'un nous fait quelque chose, t'as fait ci, t'as fait ça. Et on connaît des gens qui savent faire des listes de tout ce qu'on a fait. T'as fait ci, t'as fait ça. Mais dès qu'on les pointe vers eux, c'est « oui, mais moi, oui, mais moi ». Vous savez, deux mesures, deux balances. Et Jésus nous dira, tu seras mesuré à la mesure dont tu balances, tu mesures les autres. On ne peut pas mesurer les autres sur leurs gestes et nous ne nous mesurer sur nos intentions. La balance, elle est complètement fausse. Donc en tout cas, voilà, il pointe là-dessus. C'est quelqu'un qui revient à Dieu et qui dit, Seigneur, je ne me cherche pas d'excuses, mais je saisis ta grâce. Parce qu'elle est là, parce que ton cœur est là, ton cœur de Père est là. Oui, tu veux réparer mon infidélité, comme on lit dans ce verset. Le fugitif doit revenir, le pécheur demander la grâce pour pouvoir retrouver la communion avec Dieu. Et là, je vais vous citer une citation du pasteur Claude Wood, pasteur de l'église Nouvelle Vie à Montréal. Et il dit la chose suivante, « Le péché le plus grave que vous pouvez commettre est celui pour lequel vous refusez de vous repentir parce que vous n'avez aucune intention de changer. » Parce que vous n'avez aucune intention de changer. C'est ça le péché le plus grave, mes amis. Vous savez, il n'y a pas de péché, des fois on est là et on n'ose même pas s'approcher de Dieu parce qu'on a honte. On dit avec ça, je ne peux pas m'approcher de lui. Et vous savez, Dieu ne peut pas être choqué d'un péché pour lequel il est mort pour vous. Il n'y a rien qui puisse le choquer. Par contre, le péché qui peut être vraiment un obstacle, c'est celui qu'on refuse de reconnaître, ou on refuse de demander pardon. Parce que ça montre qu'on n'a juste pas envie de changer. On n'a juste pas envie de changer. sans repentance, sans demi-tour, il n'y a pas de libération, il n'y a pas de délivrance. Mais je crois qu'avec la repentance, il n'y a aucune limite à la grâce de Dieu pour nous. Aucune limite à la grâce que Dieu veut accomplir. Je crois que Dieu ce matin encore appelle des hommes, des femmes, des jeunes gens à revenir à lui. Peut-être que certains ce matin se disent « Mais j'ai fait trop d'erreurs, je suis allé trop loin, je peux pas me tenir dans sa présence. » Jésus a payé le prix de notre rachat malgré nos multiples abandons et adultères. Vous savez, sinon on n'est pas fidèle, lui demeure fidèle. Il est le juste. Et je crois que l'appel d'oser ce matin pour nous tous, c'est le suivant. Même si on a agi en faisant comme si on ne savait plus qui Dieu était, même si on a péché de manière publique, de manière privée, de manière cachée, Dieu veut nous dire encore au travers d'oser qu'il nous connaît et qu'il ne cessera de nous appeler vers lui. Je crois que Dieu veut ouvrir encore une vallée d'espérance, cette vallée d'accord qu'on parlait tout à l'heure pour plusieurs. Là où il y avait le tourment, là où il y a le malheur, il appelle à une espérance. Il nous appelle à un retour complet à lui. Vous savez, la repentance, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas juste une fois dans sa vie, il y a 20 ans ou 30 ans, sur une carte de baptême. La repentance, c'est un mode de vie. C'est choisir tous les matins de me lever en disant « Seigneur, il y a telle situation qui va arriver, là, il y a le collègue, là, il me prend la tête, là, je vais devoir aller le voir. Seigneur, donne-moi ta grâce de bien réagir. Donne-moi ta grâce de bien agir. » C'est un mode de vie. De dire « Ok, Seigneur, je décide de me tourner vers toi face à mes défis. Tu vois la galère, là, quand je suis devant mon ordinateur, là. Tu vois la galère, là. Seigneur, je te prie de me faire grâce. Je te prie de me fortifier. Je te prie de me remplir de toi. Je te prie de me remplir de ta puissance. » La repentance, c'est un mode de vie. Je crois que Dieu veut ouvrir encore cette vallée. Et aussi de ne pas chercher des fausses sécurités pour se sentir aimé, pour se sentir exister, mais juste lui faire confiance. Il appelle ce matin des croyants enfermés peut-être dans le légalisme aussi, et une mentalité de jugement, à sortir de cette mentalité afin de ne pas passer à côté de sa grâce, pas passer à côté de sa bénédiction. Mes amis, tout ce que nous devons savoir ce matin, c'est que sans Jésus, nous ne sommes rien. Mais nous avons de la valeur à ses yeux. Vous savez, il y a malheureusement des fois une erreur qu'on fait, désolé, je pars encore un petit peu, on confond indignité et valeur. Il y a des théologiens qui vont dire « Non, nous n'avons plus de valeur à cause de la chute, on n'a plus de valeur. » Mais en fait, ils confondent indignité et valeur. Effectivement, nous sommes indignes. Mais la valeur, vous savez comment on détermine la valeur d'une chose ? La rareté. Et puis c'est le prix qu'on est prêt à mettre pour acheter l'objet. Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux pour que tu sois réconcilié avec lui. Il a donné son propre fils. La valeur est déterminée parce qu'on est prêt à payer. Dieu a payé le prix le plus fort pour que tu sois son ami, que tu sois réconcilié avec lui. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, tu as de la valeur. Oui, tu as peut-être fait des choses indignes, mais ton péché ne te qualifie pas. Ton péché ne te qualifie pas. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu et il veut restaurer sa valeur au travers de ce que Jésus fait et va encore faire pour toi dans sa vie, dans ta vie au quotidien. Tu as de la valeur. Dieu t'appelle. Je crois que Dieu veut nous faire saisir encore une saison de grâce cette année. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse et puis à bientôt.